VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Ici à Washington, les démocrates de la Chambre des représentants lancent formellement une enquête en vue d'une destitution du président Donald Trump.
Le président Trump, qui s'est adressé hier à la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York, Dilidico fera le point tout à l'heure.
Au Mali, l'explosion accidentelle d'un camion-citerne a fait hier, en plein cœur de Bamako, au moins 7 morts et une cinquantaine de blessés, selon un bilan provisoire.
En Algérie, le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika a été condamné à 15 ans de prison dans le procès de Blida.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, en ce mercredi 25 septembre, le journal.
Ici à Washington, la Chambre des représentants va ouvrir une enquête pour impeachment à l'encontre du président Donald Trump. Première étape d'une procédure de destitution contre le chef de l'exécutif américain qu'elle accuse d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival démocrate Joe Biden. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après avoir hésité pendant des mois, les démocrates majoritaires à la Chambre basse du Congrès depuis janvier se sont finalement résolus à engager un bras de fer avec la Maison-Blanche qui devrait peser sur la campagne en vue de l'élection présidentielle de 2020. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé le lancement de cette enquête pour impeachment à l'issue d'une réunion à huis clos avec les élus démocrates, estimant que le président Trump avait mis en danger la sécurité nationale des États-Unis et violé la Constitution. Le président doit rendre des comptes. Personne n'est au-dessus de la loi, a expliqué Nancy Pelosi. Donald Trump a répliqué rapidement sur Twitter en dénonçant une chasse aux sorcières pourries. Le chef de file des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, a dénoncé mardi ce qu'il a appelé la décision unilatérale de Nancy Pelosi. Madame Pelosi est présidente de cette assemblée, mais elle ne parle pas au nom de l'Amérique en ce qui concerne cette question. Elle ne peut pas décider unilatéralement que nous lançons une enquête pour impeachment, a-t-il déclaré. Beaucoup d'élus démocrates préconisent depuis longtemps l'ouverture d'une procédure de destitution contre M. Trump en raison de l'ingérence russe dans son élection ou de ses conflits d'intérêts, mais ces efforts avaient jusque-là été bloqués par l'aile modérée de leur parti. C'est finalement l'affaire ukrainienne qui a convaincu cette dernière de se rallier à l'option politiquement risquée de l'impeachment.
Le président Trump a finalement accepté de publier le contenu de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cœur de l'affaire. Directement concerné par ce dossier, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, s'est rallié mardi aux partisans de l'ouverture de la procédure de destitution. Les démocrates soupçonnent le président américain d'avoir poussé en mettant dans la balance une aide militaire destinée à l'Ukraine. Son homologue ukrainien a enquêté sur Joe Biden et son fils Hunter. Ce dernier avait travaillé pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, lorsque son père était vice-président.
Selon la presse américaine, le président Trump s'est plaint du fait que cette affaire de procédure de destitution à Washington ait en quelque sorte éclipsé son discours à New York à la 74e Assemblée générale de l'ONU, où nous retrouvons notre correspondante Dilidico.
La journée de mardi a été marquée par l'intervention du président américain Donald Trump. Dans son adresse, sa troisième depuis le début de son mandat, il a à nouveau pris position pour sa politique en faveur de l'Amérique d'abord, America First, en soulignant que l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais plutôt aux patriotes. Après ses paroles d'ordre symbolique, il s'est penché sur les grands dossiers internationaux en abordant la crise avec l'Iran, les relations commerciales avec la Chine, la situation politique et sociale au Venezuela et le Brexit. En attendant les développements de ce mercredi, il est anticipé que cette journée sera également placée sous le signe du multilatéralisme et de la coopération. Au programme de cette troisième journée de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les discours de plusieurs présidents africains, l'un des plus attendus est celui d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il est prévu que le président malien prenne la parole dans l'après-midi pour parler notamment de la situation sécuritaire dans le pays, mais également dans la région du Sahel. Hier, son homologue burkinabé, le président Kabore, avait appelé, lors de son discours aux tribunes de l'ONU, au multilatéralisme. en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la pauvreté. Il a également déclaré qu'il est primordial de solidifier le cadre du G5 Sahel en soulignant que le soutien de la communauté internationale est d'une importance capitale pour mettre fin à l'insécurité et favoriser le développement. Quelques heures après le discours du président burkinabé, le chef d'État sénégalais Macky Sall avait à son tour pris la parole en faisant écho aux propos de ses prédécesseurs, mettant en avant le multilatéralisme.
À noter parmi les interventions d'hier à l'Assemblée générale, donc celle du président du Burkina Faso dont a parlé Diko, et aussi du président du Niger. Deux pays confrontés à la double menace du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Le président nigérien Mahamadou Issoufou.
Les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad sont devenus le théâtre d'opérations des organisations terroristes et criminelles dont la menace fait partie des questions qui relèvent par excellence du multilatéralisme. En effet, la sécurité est un bien public mondial. En mettant en place des coalitions fortes de lutte contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak et en Syrie, la communauté internationale l'a bien compris. Nous déplorons qu'il n'en soit pas ainsi au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, où les menaces des organisations terroristes et criminelles ont été amplifiées par la crise libyenne, crise dans le déclenchement de laquelle la communauté internationale a de graves responsabilités. Par conséquent, comme j'ai eu à l'indiquer à maintes reprises, la communauté internationale ne doit pas détourner son regard de ces deux régions dont les populations, notamment les femmes et les enfants, connaissent des souffrances indescriptibles.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou. De son côté, son homologue burkinabé Marc Christian Kabore a souligné la gravité de la situation que vivent les pays du Sahel et insisté sur la nécessité d'y faire face grâce au multilatéralisme.
Il nous faut impérativement travailler au renforcement du multilatéralisme et du rôle de l'ONU comme moyen de parvenir à des solutions communes aux problèmes de notre planète. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, s'il y a des phénomènes qui attristent notre monde aujourd'hui, ce sont bien le terrorisme et la pauvreté. Depuis janvier 2016, notre pays fait face à des attaques terroristes persistantes et d'une ampleur sans précédent, dont les impacts de plan humain, social et économique sont lourds de conséquences. L'escalade de la violence et l'insécurité ont provoqué une grave crise humanitaire, faisant de nombreuses victimes civiles et au sein des forces de défense et de sécurité, des centaines de milliers de déplacés internes, des écoles et des infrastructures de santé fermées et des symboles de l'État détruits. La déstabilisation se poursuit à travers l'instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés qui se muent en affrontements violents. Au plan des finances publiques, on peut constater l'augmentation des dépenses de sécurité au détriment des financements des secteurs sociaux et de développement.
Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, l'explosion accidentelle d'un camion-citerne rempli de carburant a semé la désolation hier en plein cœur de Bamako, à proximité d'une station-service et d'un hôtel sur une grande artère de la commune de Badalabougou. On déplore au moins 7 morts et une cinquantaine de blessés, un bilan qui risque encore de s'alourdir. De la capitale malienne, notre correspondant Lamissa Sangaré.
De la fumée épaisse au milieu de laquelle des blessés sont jonchés à même le sol. Quelques corps calcinés ça et là. Des éléments de la protection civile se démêlant parmi les victimes. Hier après-midi, en plein cœur de Bamako, lorsqu'un camion citerne de 14 millilitres transportant du carburant s'est renversé non loin d'une station d'essence, les premiers blessés furent transportés à l'hôpital Gabriel Touré après plusieurs heures de dur labeur, explique le lieutenant-colonel Adaman Diara de la protection civile.
Sur les lieux, nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs brûlés. La citerne était renversée. La première équipe s'est mise à éteindre le feu. Deuxième équipe venant en renfort avec les ambulances ont commencé à faire le conditionnement des blessés, des brûlés et on les a envoyés à l'hôpital Gabriel Touré.
Sur place à l'hôpital Gabriel Touré, le ministre de l'Environnement n'a pas caché sa satisfaction de la promptitude de l'équipe médicale.
Nous avons été heureux de constater que tous les services de Gabriel Touré, du département de la santé, se sont mobilisés et ont rendu gratuit la prise en charge. C'est une situation que nous allons suivre.
Les corps calcinés ont été transporté au centre de santé du quartier Mali. Dans un communiqué, le gouvernement a rassuré que des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances exactes du drame et situer les responsabilités. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
En Algérie, un tribunal militaire a condamné à 15 ans de prison Saïd Bouteflika, frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, jugé pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, a rapporté aujourd'hui l'agence officielle APS. Le général Toufik et son successeur à la tête du renseignement, Atman Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, le parti trotskiste, Louisa Hanoun, jugée dans la même affaire devant le tribunal militaire de Blida, au sud d'Alger, ont écopé de la même peine, selon APS.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Zambie a conclu un accord pour importer 300 MW d'électricité de la société sud-africaine Eskom afin d'atténuer ses pénuries pour une durée de 6 mois. Les importations commenceront le 1er octobre et coûteront 22 millions de dollars par mois. La Zambie a un déficit énergétique de plus de 700 MW en raison du bas niveau des eaux des barrages hydroélectriques. L'an dernier, l'Afrique a été la deuxième région touristique la plus dynamique au monde après l'Asie-Pacifique, selon la plateforme commerciale Juma. En 2018, le continent africain a accueilli 67 millions de touristes, soit 7% de plus qu'en 2017. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochaines années grâce à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Pour terminer cette minute éco, Boeing propose de verser 144 500 dollars à chaque famille des 346 victimes des deux accidents des avions 737 MAX appartenant aux compagnies Lion Air et Ethiopian Airlines. Les proches des disparus peuvent déposer leur demande d'indemnisation jusqu'au 31 décembre. Pour recevoir l'argent, les familles n'auront pas besoin de renoncer à d'éventuelles poursuites judiciaires. Il s'agit juste d'un fonds de compensation qui ira à l'éducation et aux frais de subsistance pour les familles touchées.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Kana Biyik met un terme à sa carrière internationale.
Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Je laisse la place à des joueurs plus jeunes et je vais me concentrer sur ma carrière en club, a écrit Jean-Armel Kana Biyik sur son compte Instagram. Ce n'est pas la première fois que le défenseur de 30 ans annonce la fin de son aventure avec les Lions Indomptables. En 2014 déjà, Kana Biyik avait claqué la porte de la sélection nationale. Il a joué 6 matchs avec l'équipe nationale camerounaise et a pris part à la dernière CAN en Égypte. Lui qui avait pourtant refusé de participer aux éditions 2015 et 2017 alors qu'il avait été sélectionné. L'actuel joueur du club turc de Gaziseir Gaziantep avait fait son retour au sein de la tanière en 2018.
Mauvaise nouvelle pour le Malien Moussa Djenepo.
L'international malien souffre d'une blessure musculaire à la jambe qu'il a déjà privé du match de Southampton contre Bournemouth. Son coach a confirmé une absence de longue durée. Recruté cet été en provenance du Standard de Liège, Moussa Djenepo brille de mille feux en première ligue, auteur d'un but spectaculaire en championnat. L'ailier des Aigles a inscrit 2 buts en 4 matchs cette saison. Pour rappel, Moussa Djenepo a quitté le Standard de Liège pour la première ligue et Southampton l'été passé contre 15 millions d'euros.
Le Nigérien Moussa Mazou continue son voyage à travers le monde.
À 31 ans et après une pige à Ohod Al-Medina en Arabie Saoudite, l'attaquant nigérien a signé en faveur du club israélien du Sekhtia Nes, actuellement 13e sur 14 du championnat. Après un passage raté au RC Lens et un prêt plutôt réussi à l'AG Ajaccio, Moussa Mazou évoluait depuis cette année en Arabie Saoudite. Sekhtia Nes est le 18e club de la carrière de l'attaquant international nigérien. Il va évoluer dans un 10e pays après des passages notamment en Russie, en Tunisie ou en Chine. L'homme aux 48 sélections et 12 buts avec le Niger est passé par Monaco, Bordeaux, Le Mans ou encore Lens.
Saint-Pétersbourg accueillera la finale de la Ligue des Champions 2021.
Cette finale de la Ligue des Champions 2021 sera une première pour la ville russe dont le club phare. Le Zénith participe régulièrement à la compétition. L'UEFA a également annoncé que Munich avec l'Allianz Arena sera la ville hôte de la finale 2022 et que Londres avec Wembley sera celle de l'édition 2023. En ce qui concerne la Ligue Europa, c'est la ville espagnole de Séville qui a été choisie pour la finale 2021. Pour rappel, la prochaine finale de la Ligue des Champions aura lieu en 2020 à Istanbul. L'UEFA confirmé que l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR sera utilisée cette saison en Europa League dès les 16e de finale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président guinéen Alpha Condé a appelé ses concitoyens à se préparer à un référendum et à des élections. Cet appel a été lancé lors d'une rencontre avec la communauté guinéenne à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les réactions suscitées en Guinée même par cette annonce avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Lors d'une rencontre avec la communauté guinéenne à New York, le 20 septembre, le président Condé a finalement confirmé ses intentions, la modification de la Constitution.
Donc, je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections.
Au pays, le Premier ministre est en consultation pour entendre les avis des Guinéens sur les élections législatives prévues avant la fin de l'année, selon la date fixée par le président de la CENI, mais aussi justement sur le changement de la Constitution. L'appel du président Condé pour un référendum ne peut qu'alimenter les débats avant les résultats de ces consultations.
Pour ça, le référendum, ça, il n'y a pas un problème. Mais il faut qu'il soit honnête, dire sincèrement oui. Après le référendum, je vais me présenter ou pas. C'est ça le problème.
Comment on va vers le troisième mandat? Ce que tu n'as pas fait dans 9 ans, comment tu vas faire dans 5 ans? Nous, on ne veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, 2020, on veut un nouveau président en Guinée ici.
En ce qui me concerne, moi, je soutiens le projet du référendum. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chefs de quartier, nous ont été imposés. Moi, aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans la constitution qu'on a actuellement. Ça n'a pas été voté.
Au FNDC, fer de lance de la contestation sociale, cette sortie du président Condé ne surprend personne. La lutte contre le changement constitutionnel se poursuit, a dit Ibrahima Diallo, chef des opérations du FNDC.
Nous n'allons pas accepter que M. Alpha Condé impose un dictat à la Guinée et au peuple guinéen. Et rassurez-vous que la résistance sera rude, mais le combat citoyen pour l'alternance démocratique, pour la paix, pour la stabilité de la Guinée, pour la défense de la Constitution sera gagné.
L'opposition guinéenne membre du FNDC a plusieurs fois dit qu'elle n'acceptera pas de changement de Constitution en Guinée. Pour Faya Milimono, président du bloc libéral, le président Condé veut sans nul doute forcer les choses.
Il était simplement en train de prendre le temps, question de réunir les conditions qu'il considère nécessaires. Mais aucune condition ne sera suffisante pour tripatrier la Constitution. Nous avons vécu le tripatriage de la Constitution au début des années 2000, ce qui a permis aux gens Lansana Conté d'avoir une présidence à vie. Ce pays-là est allé en faillite. C'est des centaines de jeunes gens à la fleur de l'âge qui ont été tués. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice. Nous ne retournerons à cela pour aucune raison.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahmandia avec vous dans Washington Forum. La 74e Assemblée générale annuelle de l'ONU se tient cette semaine à New York. Les chefs d'État vont aborder les grands sujets du moment, l'environnement, le développement durable, la réduction de la pauvreté et les migrations, avec le climat, l'insécurité dans le Sahel, la crise libyenne entre autres. L'Afrique sera de nouveau au centre des débats. Le bloc africain réussira-t-il à faire de ces dossiers une priorité? Où en est-on avec la réforme de l'ONU? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Mali, les jeunes des zones exondées de la région de Mopti se sont retrouvés au gouvernorat pour des échanges sur des solutions aux conflits dans la région en vue de la paix et de la cohésion sociale. La rencontre a été initiée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Notre correspondant Mamoudou Bokoum fait le point.
Ce face-à-face entre les jeunes de Koro, Bankas, Bandiagara et Douanza a démarré dans une atmosphère de méfiance. Mais au finish, tous ont eu une convergence d'idées, se parler, se comprendre, puis se donner les mains pour une large sensibilisation de leurs différentes communautés. Certains parmi eux nous parlent de l'importance de cette rencontre.
Elle a beaucoup d'importance. Ça permet à la jeunesse de prendre conscience de ce qui se passe et de participer à la gestion de la crise. C'est elle-même qui paye refuser, c'est elle-même qui peut résoudre aussi.
L'importance de cet atelier est énorme, dans la mesure où elle nous a conduit quand même à comprendre comment faire pour sortir de la crise. Il faut quand même éviter la haine entre nous, sensibiliser surtout à ce qu'on ait confiance l'un à l'autre.
Les jeunes Dogon et Pil, nous sommes tous retrouvés, tous ici. Là, c'est déjà une grande importance. Et les jeunes Pil aussi et Dogon, on va parler, on va discuter pour qu'on puisse vraiment trouver une solution vraiment à cette crise-là.
Déjà, la couche juvénile a tracé des pistes de solutions, notamment sécuriser les différents axes routiers, organiser des dialogues entre les groupes d'autodéfense, contrôler les réseaux sociaux, organiser les retours des déplacés, puis lutter contre l'amalgame. Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés dans les différentes zones. Abdou Sékou Ologem est chef de projet au Centre pour le dialogue humanitaire.
La question des amalgames était au cœur des discussions. Et ils ont dit que le problème aujourd'hui, c'est autour de l'amalgame. Et qu'il y a un besoin de travailler autour de cette problématique. Parce que au juste, l'amalgame est entretenu par des suspicions dues au fait que les gens ne se parlent pas. S'ils ont l'occasion de se parler, d'être ensemble, de se rapprocher, sans doute, les amalgames vont être levés. Et ils sont convaincus que c'est ce qu'il y a lieu de faire et ils se sont engagés en faveur de cela. Et nous allons accompagner, étant une maison de médiation, notre travail, c'est d'accompagner, c'est de faire de sorte qu'ils soient vraiment des acteurs qui vont renforcer les différents processus. Donc on va avec eux porter cela.
L'accompagnement des autorités régionales ne fera pas défaut à rassurer les gouverneurs. Le général de brigade Abdoulaye Cissé s'est dit comblé pour cette initiative.
C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, parce que j'ai dit tout le temps que la paix viendra d'abord avec les jeunes. Quand les jeunes sont d'accord qu'il y ait la paix entre eux, les parents sont obligés de les suivre. Et ce sont les jeunes qui sont encore nombreux en Mourousse aujourd'hui pour se donner à des tueries, pour se donner à des actes qui ne sont pas acceptés par les lois du Mali.
Les jeunes ont donc déclenché le processus. Reste maintenant l'implication de tous et de chacun pour que la paix revienne définitivement dans la région. Mamoudou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Les Algériens sont encore sous le choc après la mort par asphyxie de 8 bébés dans une maternité à Oued Souf, une ville située à 500 km au sud-est d'Alger. Un incendie qui a ravagé hier le quartier avant l'aube en serait la cause. Arzouma Compaoré a joint le jour même notre correspondant sur place, Mehdi Alioun.
L'incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin dans un établissement hospitalier dans la ville de Ouessé, au sud de l'Algérie. L'incendie a fait 8 morts de 8 nouveau-nés. Ils sont dans le procureur de la République de la même ville, du tribunal de la même ville, donc les 8 nouveau-nés sont morts par asphyxie.
Que sait-on justement de ces nourrissons-là?
Pour le moment, on n'a pas énormément de détails. On a pris certaines informations. Il y avait 2 jumeaux. On a annoncé qu'ils étaient installés dans une chambre dédiée aux nourrissons prématurés. C'est les informations qu'on a.
Comment est-ce que les Algériens réagissent? 8 nouveau-nés, c'est quand même assez lourd.
C'est affreux, c'est horrible. Il suffit juste de faire un petit tour sur la toile pour constater que les Algériens sont choqués. Ils sont indignés que l'innocence se voit tuée. Ils sont aussi indignés que des bébés se voient arrachés à la vie dès les premiers jours de leur vie. Et en fait, ils sont d'autant plus en colère que cet établissement, que cet hôpital a déjà fait l'objet de l'incendie. Le 25 mai 2018, un incendie s'est déclaré. Heureusement, à cette époque-là, il n'avait fait aucune victime. Il est vrai qu'il a ravagé tout un étage de l'établissement, mais tout le monde a pu être sauvé, y compris le malade. Mais pas cette fois-ci, à peine 16 mois plus tard, ce qui a accentué la colère des habitants et des Algériens.
Est-ce qu'on sait c'est quoi la cause?
Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est tout bête qu'une étincelle électrique qui a été émise par un appareil anti-moustique.
Et ces appareils, ils sont utilisés un peu partout sur le territoire? C'est courant?
En fait, oui, ils sont couramment installés dans les hôpitaux, généralement, comme son jardin, pour éliminer les moustiques et assurer une certaine tranquillité chez les malades.
Est-ce que le gouvernement a donné justement un programme d'action pour contrer ou en tout cas éviter de tels événements de se reproduire?
Bon, à l'heure, ils n'ont pas encore communiqué des mesures, disons, sur le long terme. Ils sont toujours en train de réagir. Donc, c'est toujours chaud, en fait, comme événement. Ils sont toujours en train de réagir à cette actualité. C'est le ministre de la Santé qui, dans une déclaration, a fait savoir qu'il a pris une série de mesures qu'il a rendu public, la suspension du directeur de l'hôpital, la suspension du directeur de la santé pour ce district. Et la troisième mesure, c'est également la suspension de toute l'équipe qui était en cabane. Et il a aussi annoncé une enquête pour déterminer la responsabilité en priorité.
Joint hier en Algérie, notre correspondant Mehdi Alioun.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Pour terminer, au Cameroun, plus de 300 scientifiques sont réunis à Yaoundé pour renforcer les solutions africaines dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Parmi elles, le paludisme qui continue de ravager les populations. De Yaoundé, un reportage de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Sous une salve d'applaudissements, le professeur camerounais Rémi Mfundi reçoit une distinction pour ses recherches sur les maladies à transmission vectorielle. 40 ans de travaux dans les universités du Cameroun, une riche expérience qui contraste encore avec la situation des maladies à transmission vectorielle dans son pays.
Le Cameroun offre un environnement idéal pour la prolifération des vecteurs.
Professeur Rémi Mfundi.
Ces insectes ont un cycle de reproduction qui passe par l'eau. Vous avez essentiellement les mares temporaires ou bien des réservoirs qui peuvent être artificiels. Quelquefois, c'est des bassines que l'on garde dans les maisons pour la conservation de l'eau. Et c'est là où les moustiques viennent pondre. Et là-dedans, nous avons donc deux genres. Nous avons le genre Anopheles, qui transmet le paludisme. Ensuite, nous avons un autre genre, le Aedes albopictus, qui est une espèce qui transmet le chikungunya, par exemple.
Le Cameroun figure parmi les 11 pays dans le monde qui sont les plus affectés par le paludisme, une maladie qui, dans le pays, reste la principale cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Professeur Rose Ngana Fombanleke est également l'une des figures de proue de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle au Cameroun.
Les habitants du Cameroun doivent utiliser tous les outils que nous avons. Plus précisément, les moustiquaires qui sont distribués. Les gens doivent les utiliser et même s'ils attrapent le paludisme, qu'ils se soignent bien. Il y a des médicaments pour traiter le paludisme, il y a des moyens de le prévenir.
Surveiller et éliminer les maladies à transmission vectorielle au Cameroun et en Afrique passe d'abord par la résolution du problème de résistance des moustiques aux insecticides. Ba Robert David est du Burkina Faso. Il représente la société Syngenta qui lutte contre les maladies vectorielles.
61% de réduction de taux de paludisme au Ghana grâce à notre produit, grâce à la pulvérisation intradomiciliaire. Vous avez 64% de cas de réduction de cas de paludisme au Zimbabwe. Vous avez 45% de cas de paludisme réduits au Mozambique. On a beaucoup d'exemples comme ça.
Mais de telles campagnes sont onéreuses et ne peuvent être menées que par des organismes comme le Fonds mondial ou l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi l'Association panafricaine de lutte contre les moustiques, créée en 2009, encourage des approches communes entre scientifiques africains et institutions partenaires pour faire face aux maladies transmises par les moustiques sur tout le continent. Docteur Charles Mbogo, président de la dite association.
Dans 27 pays d'Afrique, nous avons réalisé que les capacités humaines sont limitées. L'autre challenge est la capacité financière, précisément pour les infrastructures. C'est pour cela que nous exhortons les pays africains qui ont davantage de moyens financiers à partager leurs ressources avec ceux qui n'en ont pas. Et nous demandons aussi à l'Union africaine de consacrer plus d'argent à l'éradication des maladies vectorielles.
Parmi les maladies transmises par les moustiques en Afrique, il y a entre autres la fièvre jaune, la dengue, le Zika, le chikungunya ou encore la filariose. Elles sont extrêmement mortelles d'après les experts. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais tous les soirs pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Kelvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.